Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Périgord littéraire. Alors, on a fêté cette année le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Et j'ai sous les yeux un livre de Marie-Bernadette Dupuis qui s'intitule « Alban » et c'est le premier volume qui s'appelle « Un ciel d'orage ». Et c'est édité par Kalman, décidément. Kalman Levy, cette année donc en 2024. Alors, l'auteur aux 5 millions de lectrices, nous dit-on. Alors, juillet 1939, donc on en revient à ce livre, en Dordogne, « Alban » de Hier, 21 ans, est institutrice, elle habite avec son père une extravagance sexagénaire dans le château familial de Brantôme. Donc cette histoire se passe évidemment en Dordogne. Alors, face aux tensions grandissantes avec l'Allemagne et aux menaces de plus en plus claires qui pèsent sur une paix déjà précaire, Alban accepte la demande en mariage de Louis Moulinier, le directeur de l'école où elle enseigne et qu'elle fréquente depuis plusieurs mois contre l'avis de son père. Alors, la déclaration de guerre vient brutalement mettre fin au timide début de leur vie conjugale. Alors, Louis est mobilisé, laissant sa jeune épouse démunie face à un avenir incertain. Alors que la drôle de guerre débute, Alban va trouver un échappatoire au château familial où sont logées trois familles de réfugiés du Bas-Rhin et conserver toute son énergie au long combat contre l'injustice, la violence et le rationnement qui s'annoncent alors. En 1939, certaines villes d'Alsace, comme Strasbourg, vont être vidées en quelque sorte de leurs habitants qui vont venir dans le sud-ouest ou dans le sud de la France pour un certain temps. Alors, bien sûr, certains repartiront après, mais beaucoup ou certains resteront et feront souche. Alors, pour revenir à ce livre, Alban, un ciel d'orage, alors c'est le premier tome d'une nouvelle saga bouleversante portée par une héroïne déterminée et indépendante, prise dans la tourmente de l'histoire. Alors, pour l'auteur, alors on nous dit que c'est l'auteur aux 5 millions de lectrices, il y a peut-être quand même quelques lecteurs, dont moi pour l'occasion. Alors, Marie-Bernadette Dupuis est une écrivaine au milieu de talent. Elle aborde avec un immense succès les genres les plus variés. Biographie historique, polar, romance, littérature régionale, grande saga familiale. Son œuvre lui a permis de conquérir le cœur de très nombreux lecteurs à travers le monde et de devenir la reine française de la saga. Profondément attachée à sa région natale, la Charente, donc c'est une voisine à laquelle elle rend régulièrement hommage dans ses romans. Elle fait partie des ambassadeurs de la ville d'Angoulême. Alors, son œuvre, on va voir un petit peu quelle est son œuvre. Alors, il y a beaucoup de, comme je disais, beaucoup de sagas. Alors, il y a la saga de Valjalbert, il y a la saga du moulin du Loup, la saga d'Angelina, la saga des Boris, du lac Saint-Jean, de Faye Moreau, d'Abrigène, etc., etc., etc. Et on va se retrouver d'ailleurs par un moment en Périgord. Il y a également les enquêtes de Maud Delage. Alors, là, c'est plus des sagas, mais il y a quand même plusieurs volumes à chaque fois. Alors, il y a des livres hors série. Le monde écorché, Le chant de l'océan, Les enfants du pas de loup, Le refuge des roses, et il y a également Le cachot d'Hautefaille. Alors, Hautefaille se trouve bien entendu en Périgord. Voilà. Alors, et puis il y a Les fiancés du Rhin, etc., etc. Alors, pour en revenir à notre histoire d'Alban, donc, comme on l'a vu, elle va se marier, mais son mari, instituteur et même directeur d'école, va être réquisitionné pour l'armée. Et puis, elle va découvrir, si je puis dire, dans une dépendance du château, deux femmes alsaciennes, et dont une femme va accoucher. Alors, Voilà ce passage. Avez-vous remarqué que la pluie a cessé pendant la mise au tombeau de la douce Esther, dit-il au médecin qui marchait à ses côtés. Oui, cela vous a permis de lire dans un parfait silence ce poème qui était bien choisi, concéda Géraud. Géraud, c'est le médecin de Brantôme. Voilà, alors, aussitôt, certains que Mireille ne pouvait pas l'entendre. Alors, Mireille, c'est la mère de la jeune victime. Alors, Amédée récita de nouveau, mais tout bas, les deux strophes qui lui étaient chères. Mais le ciel avait au trépas condamné ces jeunes appâts. Au ciel, elle a rendu la vie et doucement s'est endormie, sans murmurer contre ses lois. Aussi, ainsi, le sourire s'efface, ainsi meurt sans laisser de traces le chant d'un oiseau dans les bois. Voilà, alors, j'ai découvert cette poésie un mois après le décès de mon épouse, indiqua-t-il. Je l'ai apprise et j'allais la dire là-bas, près du mausolée. L'auteur est un certain Évariste de Parny, un poète du XVIIIe siècle. Ma fille me demande parfois ce que je fais le soir dans ma chambre. Je lis jusqu'à tomber assoupi. Alors, il y a bien sûr d'autres citations. Il y a d'autres citations. Nous ferions mieux de monter dans notre chambre. Alors, je lis un peu le passage. Il est déjà tard, déclara Louis en guise de réponse. Et si nous nous promenions un peu, il fait tellement bon la nuit tombée. Aujourd'hui, la chaleur m'a incommodé. Nous pouvons marcher jusqu'à l'abbaye. Je n'ai jamais le temps de l'admirer de près. Les moines de la congrégation de Saint-Maur ont entrepris de la restaurer. Les travaux ont bien avancé depuis leur arrivée en 1936. Alors, évidemment, l'abbaye, c'est l'abbaye de Brantôme, puisque cette histoire se passe à Brantôme. Alors, il y a une petite note qui nous dit que ce fait est véridique. On va continuer à éplucher un petit peu ce roman. Voilà. Je ne serai pas longue, ma chère enfant. Vous pouvez feuilleter une revue pendant ce temps. Au fait, j'ai reçu une lettre de Louis. Il a rejoint la division commandée par le général Prételat. Ils sont dans la Sarre afin de mener une offensive qui sera peut-être salutaire pour l'armée française. Alors, Louis, c'est le mari, évidemment, d'Allemagne. Alors, je vous remercie de me le dire, je n'avais aucune nouvelle, mon fils risque sa vie à chaque instant, et je n'en dors plus, c'est terrible en effet, concéda Alman dans un souffle. Voilà, alors, ce qui concerne l'offensive dans la Sarre, c'est un fait authentique, l'offensive de la Sarre a eu lieu au 9 au 14 septembre 1939, nous dit une note en bas de la page. Voilà, et donc le mari va, seulement le sol est truffé de mines, et le mari va connaître un triste sort dans la Sarre. Alors ensuite, il y a beaucoup de chapitres. Hein. La fin de l'été, château de Séguière, le samedi 6 septembre 1939. Alors, voilà ce que nous dit. Un vent tiède apporté jusque dans la chambre d'Alban, la senteur âpre des pommes soumise au pressoir. Maria devait broyer les fruits, comme la veille, en promettant à tous du bon cidre pour l'an prochain. Alors Maria, c'est la servante du château, qui est quand même un château qui est un peu délabré. Alors ce matin, je reste un peu plus au lit, nos petits protégés sont en congé. Valanguie, par une bonne nuit de sommeil, la jeune femme s'attira, à peine couverte d'un lourd drap, en lin et cru. Elle aimait le contact de ce tissu épais, un peu rêche, je dois être la dernière réveillée. De joyeuses cavalcades avaient retenti dans le couloir de l'étage, les garçons ayant des godillots ferrés. Soudain, la voix flûtée de Lady Wilding s'éleva. « Faites moins de bruit, mademoiselle dort encore. Félicia, tu vas m'aider à lui préparer un bon petit déjeuner, mais tu monteras le plateau, sinon je vais tout renverser. » Voilà, alors donc, il l'appelle toujours mademoiselle, bien qu'elle soit mariée, et elle va se trouver enceinte, mais perdra son enfant. Voilà, alors donc... Donc on va continuer un peu la lecture de ce livre. Alors, de nombreux, bien sûr, elle est institutrice, comme on l'a vu. On nous dit dans le texte, de nombreux instituteurs ont été mobilisés. L'État prévoit de rappeler des retraités de l'éducation nationale et de recruter des jeunes femmes qui n'ont pas encore leur diplôme. Dans certains départements, la rentrée pourrait même être reportée au mois de décembre pour les classes primaires. Et évidemment, il y a une petite note qui nous dit que ce fait est authentique. Alors, J'avoue que ça remonte quand même à quelques temps et espérons qu'il n'y aura pas de débordement, comment je pourrais dire, à venir. Alors, en continuant un tout petit peu, mon Dieu, quelle misère, soupira la jeune femme, et nous devons encore l'intrusion de cet individu à Maubert-Guérin. Pourquoi a-t-il recruté des Allemands? Comment les a-t-il fait venir ici? Alors, Maubert-Guérin, c'est un voisin, qui est un peu pour l'Allemagne, mais bon, il se fera arrêter par la suite. Alors, voilà, c'est ce que l'on dit dans le livre. La suite, je doute que ce soit des citoyens allemands, répondit Mireille. Alors, Mireille, c'est bien sûr une réfugiée qui dit d'un air songeur en ce qui concerne Ulrich Mann. Il s'exprime péniblement dans cette langue, il est beaucoup plus à l'aise dans le dialecte alémanique, très répandu en Alsace, dans l'ouest de l'Allemagne, en Suisse, et même au nord de l'Italie. Voilà, alors, la Suisse, évidemment, est à plusieurs langues. Alors, il y a une petite note qui nous dit que ce passage est, bien sûr, véridique. Alors, en continuant un peu la lecture, comme je disais, de ce livre, alors, vous méritez un peu de distraction avec tout le dur labeur de la semaine. Nos réserves de bois augmentent à vie d'œil. Et finalement, Meyer et Goss, qui ne s'en plaignent pas, ils se font les muscles à manier la hache et le merlin. Je vous laisse, j'ai mes cigarettes, à demain, nous reverrons à la messe. Alors, le merlin, c'est un outil qui servait à fendre de grosses bûches. Alors, on va continuer un tout petit peu. Certaines fillettes avaient un gilet ou un pull sur leur tablier, mais après un mois de décembre très pluvieux, le froid avait sévi sur toute la France avec son cortège de neige et de verglas. Alors c'est un fait véridique qu'on nous dit sur une petite note, hein, 9 janvier 1940, presque toute la France était enneigée avec des températures très basses. Alors, on va arrêter un petit peu la lecture de ce livre, et il y a quand même au début de cet ouvrage une note de l'auteur. Alors voici ce qu'elle nous dit. « Chère amie lectrice, chère amie lecteur, sur les traces allemandes de ces guillières, je vous amène cette fois en Dordogne, autour de la petite ville de Brantôme, avant et après la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle saga témoigne d'une époque troublée où les quotidiens de chacun étaient bouleversés, où les lendemains étaient incertains. Au fil de ces pages, vous découvrirez bien sûr les richesses du patrimoine périgourdais, tout en partageant avec mon héroïne son chemin semé d'épines, celle des privations, des combats clandestins et des persécutions, mais aussi celle de l'amour quand il rime avec passion. Je tenais également à rendre hommage encore une fois à tous les justes qui ont sauvé des juifs, parfois au prix de leur propre vie, mais ces personnes admirables ayant caché des dizaines d'enfants dans le préventorium des fougères près de Brantôme. J'espère que vous apprécierez ce roman, que vous avez autant de plaisir à le lire que moi à l'écrire. Je vous dirai également, comme dans chacun de mes livres, que toute ressemblance avec des personnages, des personnes existantes ou ayant existé, serait fortuite et indépendante de ma volonté, que les événements sont fictifs, hormis ceux signalés comme authentiques par une note, ce que l'on vient de dire. Et puis, elle nous souhaite évidemment une bonne lecture avec toute son affection. Alors, pour reprendre un peu la lecture de ce livre, on va continuer un tout petit peu. Voilà. Donc ils se font, certains se font les muscles en fendant des bûches avec un merlin. Et on a vu que c'était quand même un outil un peu dangereux qu'il fallait quand même manier avec beaucoup de précautions. Alors à Brantôme, il y a l'école primaire et nous sommes en janvier 1940. De l'estrade où trônait son bureau, Alban surveillait ses élèves. Elle avait donné une récitation à apprendre aux plus grandes et un essai recopié aux plus petites. Certaines fillettes avaient un gilet ou un pull sur leur tablier. Avec un mois de décembre très pluvieux, le froid avait sévi sur toute la France avec un cortège de neige et de verglas. Alors, c'est un fait véridique. On nous dit que le 9 janvier 1940, presque toute la France était enneigée avec des températures très basses. Voilà, je crois que mon temps est imparti. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Alors, sans neige, évidemment, avec beaucoup de soleil. Et à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.